Anticipé la chute du gouvernement Barnier, le député Nicolas Metzdorf affirme qu'il a obtenu que l'Assemblée nationale vote le projet de loi de fin de gestion avant les motions de censure. Dans le cas contraire, la situation économique de la Calédonie sera compliquée. Michel Barnier, qui met tout son poids dans la balance pour éviter la chute de son gouvernement. Il ne s'agit pas de considérations personnelles, mais de l'avenir économique immédiat, il dit ce matin pour nous. L'actualité en Calédonie avec la suite de la visite du vice-premier ministre néo-zélandais Winston Peters. Il s'est entretenu ce matin avec le haut-commissaire. C'est aujourd'hui la Sainte-Barbe, la sainte patronne des pompiers. La fête prend un relief particulier au terme d'une année compliquée pour les soldats du feu. Caroline de Groisel, invitée de ce journal. L'artiste peintre expose avec ses élèves à partir de samedi à la galerie Artebello. Et puis dans la page au sport à la fin de ce journal, nous évoquerons l'accident de Remco Evenepoel à l'entraînement. Le double champion olympique de cyclisme souffre de plusieurs fractures, mais sa saison n'est pas remise en cause. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une censure du gouvernement de Michel Barnier serait un coup dur aux conséquences très graves pour les territoires ultramarins. C'est la mise en garde du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, à la veille de l'examen des motions de censure déposées par le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. De son côté, le député Nicolas Metzdorf annonce avoir obtenu l'examen anticipé du projet de loi de fin de gestion. Et il parle, Elisabeth Noir, de projet de loi de la dernière chance pour la Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie risque en effet, vous le savez, d'être une victime collatérale de la chute du gouvernement Barnier. C'est pour éviter une telle situation que le député de la première circonscription a plaidé pour un examen anticipé du projet de loi de fin de gestion avant le vote de la motion de censure. Nicolas Metzdorf qui annonce avoir obtenu un accord déterminant de la part du Premier ministre Michel Barnier et du ministre des Comptes Publics, Laurent Saint-Martin. L'adoption d'une motion de censure contre le gouvernement menace en effet les avancées obtenues par la Calédonie dans le cadre du projet de loi de finances. Mais cet examen anticipé du projet de loi de fin de gestion permettrait, si vous m'autorisez l'expression, de sauver les meubles. L'adoption du projet de loi de fin de gestion permettrait en fait de débloquer dès la fin de l'année le montant de 27 milliards de francs attendu par la Nouvelle-Calédonie. Et c'est la condition sine qua non de la mise en œuvre de la DM6, la fameuse décision modificative numéro 6 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie, qui doit être examinée le 11 décembre par le Congrès. Sans projet de loi de fin de gestion, il n'y a pas de DM6, et sans DM6, nous nous dirigerons vers une fin d'année catastrophique pour les Calédoniens, a d'ores et déjà déclaré Nicolas Metzdorf. Il explique que sans le vote du projet de loi de fin de gestion, la Calédonie serait confrontée dès la mi-décembre à des conséquences dramatiques, l'interruption des salaires des agents publics et des médecins, l'arrêt des allocations chômage et une crise énergétique majeure. Le député de la première circonscription qui annonce donc avoir obtenu de Michel Barnier et de Laurent Saint-Martin que soit inscrit in extremis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant l'examen des motions de censure. L'examen de ce projet de loi, ce sera à 1h du matin la nuit prochaine pour nous. Le député de la première circonscription en appelle à l'ensemble des députés, tous bords confondus, pour que ce texte soit voté sans tergiverser. Il en va, dit-il, de la survie d'un territoire français. Ce n'est plus une question de politique partisane, mais de solidarité nationale et de responsabilité envers la Nouvelle-Calédonie. Nicolas Metzdorf espère donc qu'une majorité va se dégager à l'Assemblée pour sécuriser ces 27 milliards de francs. Il affirme par ailleurs qu'il a échangé avec Emmanuel Moulin, le responsable de la mission interministérielle qui était sur le territoire la semaine dernière. Il travaille activement à la recherche de solutions qui visent à intégrer au plus vite les prêts garantis par l'État à hauteur de 120 milliards de francs, même en cas de censure du gouvernement Barnier.
Ce texte important, on le comprend, pour l'économie en Nouvelle-Calédonie sera donc étudié avant les motions de censure déposées par le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. La chute du gouvernement semble, en l'état actuel des choses, inéluctable, même si Michel Barnier continue à croire qu'il peut survivre à cet épisode. Il l'a redit ce matin pour nous dans une intervention sur les plateaux des 20h de TF1 et France 2. Jacques Serret pour Europe 1.
Michel Barnier ne veut pas en faire un problème personnel.
Les voitures officielles, les gens de la République, je m'en fous. C'est pas le sujet. C'est pas moi qui suis en cause. Ce qui se passe dépasse très largement ma seule condition.
Plus que jamais menacé, le Premier ministre cherche à interpeller les électeurs du Rassemblement national en dénonçant la motion de censure du Nouveau Front Populaire que s'apprête à voter Marine Le Pen.
Vous pouvez lire que dans cette rédaction de l'extrême-gauche, nous avons fait le choix du barrage à l'extrême-droite. Le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions, parlant des électeurs. Est-ce que c'est du respect ?
Surtout, l'hôte de Matignon pointe les potentielles conséquences d'une chute de son gouvernement.
Je regarde aussi les marchés et je vois les spreads, les écarts de taux auxquels nous empruntons. Je regarde que nous sommes quasiment au-dessus de la Grèce. Et l'impact que cette instabilité politique, vous la verrez immédiatement dans les taux d'intérêt.
Le moment est grave, il est difficile, mais l'enjeu n'est pas impossible, conclut-il, s'en remettant désormais au vote des députés.
Deux motions de censure ont donc été déposées. Celle du Rassemblement national ne devrait pas être adoptée, car elle ne recueillera pas les voix des députés de gauche. En revanche, la motion de censure du Nouveau Front populaire sera aussi votée par le Rassemblement national, même si dans sa rédaction, elle comporte des attaques frontales contre le parti de Marine Le Pen, puisqu'elle accuse Michel Barnier, qui vient de le rappeler, d'avoir cédé aux viles obsessions de l'extrême droite, notamment sur l'immigration, ce qui fait réagir Marine Le Pen.
Est-ce qu'on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP ? Quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. S'ils déposent une motion, nous en déposons une aussi. Sur la leur, la gauche propose et le RN dispose.
En cas de vote de la motion de censure, le Rassemblement national pourrait être tenu responsable de la situation confuse qui ne manquera pas d'arriver. Surtout que l'étape suivante serait de demander la démission du président de la République. Une probabilité qui n'est même pas envisageable, a fait savoir Emmanuel Macron en marge de son déplacement officiel en Arabie Saoudite. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Oui, scénario poussé par Jean-Luc Mélenchon et que n'écarte pas Marine Le Pen. Emmanuel Macron évoque, lui, de la politique fiction. Ce n'est franchement pas à la hauteur. Il se trouve que si je suis devant vous, c'est que j'ai été élu deux fois par le peuple français. J'en suis extrêmement fier et j'honorerai cette confiance avec toute l'énergie qui est la mienne jusqu'à la dernière seconde pour être utile au pays. Voilà pour la démission écartée donc. Mais Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur la censure plus que probable demain du gouvernement Barnier, fruit selon lui du cynisme insoutenable du RN et de la perte de repères complète du Parti Socialiste. Le chef de l'État tient néanmoins à rassurer sur les risques d'une potentielle crise financière. Il ne faut pas faire peur aux gens, on a une économie forte, dit-il, avant d'ajouter « La France est un pays riche, solide, qui a fait beaucoup de réformes, qui a des institutions stables et une constitution stable », comme si malgré son scepticisme affiché sur l'alliance de la gauche et du RN, le président s'était déjà fait une raison sur le sort de Michel Barnier.
Et cette censure, les agriculteurs vont en payer l'addition et lourdement, ce sont les mots de la toujours ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, alors que la coordination rurale reprend ses actions sur le terrain. Dans deux supermarchés à Auch, le syndicat a pris pour cible des produits étiquetés fabriqués en France mais conçus en réalité à l'étranger. Charles L'Huillier.
Du pâté, du jambon, des confitures, des articles qui ce soir jonchent le sol à travers les rayons des deux grandes surfaces visitées aujourd'hui. Alors quelle est la particularité des articles ciblés ? En fait, tous ceux qui, par exemple, ont un drapeau bleu-blanc-rouge sur leur emballage, car assemblés ici, mais qui en réalité sont fabriqués à l'autre bout du monde. Ajoutez à cela une mise en place flatteuse en rayon sur une vieille deux chevaux qui rappelle la campagne gersoise, et vous obtenez, selon Lionel Candelon, une tromperie sur la marchandise.
Le paquet de raisins secs, on a un drapeau bleu-blanc-rouge avec fruits secs sud de la France et au dos, origine Chili. Ça veut dire que le sud de la France est vachement grand quand même. Jette-moi ça à l'autre bout du rayon.
Tout cela sous les yeux du directeur du magasin parti à la rencontre des agriculteurs.
Aujourd'hui, nous, on met des produits où il y a un drapeau français. Si les fabricants trichent,
là, il y a de la tromperie volontaire. Il
faut remonter les informations.
Remonter les informations, oui, mais à qui ? Des agriculteurs qui, ici, vont continuer les actions dans les grandes surfaces ou ailleurs, mais qui craignent les effets d'une éventuelle chute du gouvernement Barnier. Cela pourrait en effet fragiliser les engagements pris ces derniers mois.
Charles L'Huillier pour Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Selon vous, Emmanuel Macron doit-il démissionner en cas de censure du gouvernement Barnier ? Si vous pensez qu'il doit démissionner, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 95% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent inquiets de la levée totale du couvre-feu. Ils sont 5% à dire à l'inverse être soulagés par cette décision. Il est 11h40, une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en Calédonie, et notamment la visite du vice-premier ministre néo-zélandais Winston Peters en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Factory Store, votre magasin de vêtements, chaussures et accessoires de marque à petit prix. Ralph Lauren, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, Gap. Pour dénicher les meilleures affaires, rendez-vous dès à présent dans vos magasins Factory Store au 4e kilomètre ou à Koné. Factory Store, les grandes marques à prix record.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Le vice-premier ministre néo-zélandais Winston Peters, arrivé hier sur le territoire, entame sa tournée de rencontres des acteurs politiques et économiques calédoniens. Et il s'est entretenu notamment ce matin avec le haut-commissaire Louis Lefranc, Léana Colombo.
Oui, Winston Peters, qui est également ministre des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, est effectivement en Calédonie pour une visite officielle de 3 jours. Son déplacement s'inscrit dans le cadre d'une tournée de l'ensemble des pays du Forum du Pacifique et était prévu initialement en mai, mais elle a été reportée en raison de la situation instable sur le territoire. Émeutes qui ont fait partie des discussions, révèle l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan.
C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus proche de la Nouvelle-Zélande, qu'ils étaient inquiets parce que le Pacifique, zone de stabilité et de sécurité, c'est important pour les Néo-Zélandais, c'est important pour tous les États du Pacifique. Donc s'il y a un État dans lequel il y a des émeutes, ça les intéresse, ça les trouble, parce qu'ils ont peur que ces troubles s'étendent comme tache d'huile dans le Pacifique. On voit toutes les zones du monde dans lesquelles les conflits s'étendent. Et jusqu'à présent, le Pacifique, ça tient. Et donc l'idée, c'est de venir soutenir l'État dans son entreprise de restauration de la sécurité et de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, parce que la restauration de la sécurité et de l'ordre public, ça bénéficie à tout le Pacifique, et la restauration de la stabilité économique et sociale, parce que cette stabilité économique et sociale, ça bénéficie à tout le Pacifique.
Une venue du vice-premier ministre pour être rassuré, donc, mais aussi pour renforcer les liens et apporter son soutien et son aide à la Calédonie, notamment dans le secteur économique, explique le haut-commissaire Louis Lefranc.
Le vice-premier ministre néo-zélandais nous a demandé en quoi la Nouvelle-Zélande pouvait aider la France, aider la Nouvelle-Calédonie pour sortir des difficultés qui sont les siennes aujourd'hui. Je lui ai répondu avec madame l'ambassadrice que nous étions sur un schéma où ce plan qui a été proposé par le gouvernement fait l'objet de toutes les attentions gouvernementales, centrales, donc à Paris, qu'il a été présenté et que l'accompagnement financier de l'État pour permettre la mise en œuvre de ce plan est actuellement à l'étude. Et que si la Nouvelle-Zélande veut nous aider, eh bien, qu'ils nous fassent état de leurs propositions.
Winston Peters doit ensuite échanger en visioconférence avec le député Emmanuel Chibaou avant de rencontrer le monde économique à la CCI et les associations soutenues par le consulat néo-zélandais.
C'est aujourd'hui le 14e anniversaire de la disparition de Jacques Lafleur. L'association Les Amis de Jacques Lafleur organise un temps de recueillement sur sa tombe à 16h cet après-midi au cimetière du 4e kilomètre en présence des membres de sa famille. Une cérémonie aura lieu également ce soir en présence de ses amis et ses proches devant la stèle à sa mémoire installée à Waco. Dans un communiqué, les loyalistes et le rassemblement indiquent que les partisans de la France rendent solennellement hommage à Jacques Lafleur, qui fut un pilier de notre combat pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il reste 14 ans après le symbole de notre engagement pour un avenir fondé sur le respect de la diversité humaine calédonienne et les valeurs de la République, écrivent-ils. Avant de conclure, son exemple continue à nous inspirer collectivement pour trouver un chemin de paix et de dignité dans la France. Nous sommes le 4 décembre, c'est aujourd'hui la Sainte-Barbe, c'est-à-dire la sainte patronne des sapeurs-pompiers, une fête toute particulière aujourd'hui, surtout dans le contexte que vient de traverser la Nouvelle-Calédonie, Michael Juneski.
Oui, les feux de brousse, qu'ils soient accidentels ou d'origine malveillante, voire criminelle, qui mettent les pompiers en situation d'extrême fatigue depuis plusieurs mois. Auparavant, la crise insurrectionnelle, avec des émeutiers qui prenaient pour cible aussi les secouristes dans leur mission d'aide à la population. Cette Sainte-Barbe trouve donc un écho tout particulier cette année, dans le cœur de ceux qui ont choisi de poursuivre leur engagement malgré les circonstances et quitte à mettre leur vie en danger pour cette mission qui fait leur quotidien. Isabelle Marlier est la secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens.
C'est une occasion exceptionnelle dans l'année. On a la journée nationale qui n'a pas pu avoir lieu cette année à cause des événements. Donc il nous reste le 4 décembre pour fêter notre sainte patronne qui veille sur nous toute l'année et lors de toute opération. C'est l'occasion pour nous de nous réunir de manière simple, conviviale, en famille ou pas, dans nos casernes respectives, parce qu'exceptionnellement cette année, il n'y aura pas d'événement unique pour les sapeurs-pompiers. D'abord parce que la saison de feu, elle a déjà commencé et qu'on n'a pas assez de personnes dans les casernes pour se diviser et aller faire la fête. Ensuite, on n'a pas non plus le cœur à aller faire la fête parce qu'on a subi une année très difficile, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. On va honorer notre tradition, on va se réunir dans nos casernes, on va faire des petits moments entre nous, on va se retrouver entre nous en famille famille de sang, famille de cœur. On va honorer nos anciens, on va avoir une pensée pour ceux qui sont partis. Ben, on va aussi convier, partager ce moment avec nos jeunes sapeurs-pompiers, qu'on essaye d'encourager à prendre la relève, même si cette année, il y a plein de signes qui les ont un peu découragés, quoi. C'est notre métier, on lutte contre les incendies, on intervient pour porter secours à la population. On l'a fait, on continue de le faire et on continuera de le faire parce que c'est ce pour quoi on s'est engagé.
Isabelle Marlier, secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens. La Sainte-Barbe qui protège donc les pompiers, mais aussi les mineurs, les canonniers ou encore les artificiers. Toutes les professions en rapport avec le feu ou la foudre. Une tradition qui remonte au Moyen-Âge en Occident pour préserver de la malmort, c'est-à-dire la mort sans avoir reçu les derniers sacrements.
Dans l'actualité en Calédonie, en bref, rappelons que le bilan de la mortalité routière s'est considérablement alourdi. Hier matin, 3 personnes ont perdu la vie sur la RT1. Le choc frontal s'est produit entre la tribu de Saint-Laurent et le col de la pirogue. 2 personnes ont perdu la vie dans une voiture et un enfant d'environ 2 ans a été tué dans le fourgon qui arrivait en face. L'accident a fait aussi 4 blessés. Depuis le début de l'année, 24 Calédoniens sont morts sur les routes. Les enquêtes se poursuivent en province nord. Hier matin, vers 3 heures, les bureaux du secrétariat de la mairie de Conné ont été incendiés. Du papier a été allumé sous une table. La pièce a été totalement détruite par les flammes, tandis que d'autres pièces adjacentes ont subi des dégâts moins importants. Une enquête a été ouverte pour ce délit, puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Et puis à Conné, dans la zone industrielle de Baco, c'est le snack Container Café qui a été la proie des flammes dans la nuit de lundi à mardi. Dans un communiqué, le gouvernement exprime sa profonde indignation et condamne cette série d'incendies volontaires survenus ces derniers jours, à Nouméa, Conné et Point-d'Imier. Ces actes inacceptables mettent en danger la sécurité publique, perturbent la vie de nos concitoyens et entraînent des dégâts matériels considérables. Ces actes de vandalisme criminel constituent une atteinte grave à notre tissu social et économique, peut-on lire dans ce communiqué. Et puis toujours en bref, la séance publique de l'Assemblée de la province des Îles qui devait se tenir demain a été reportée. À l'ordre du jour figurait le débat d'orientation budgétaire et la décision modificative numéro 3 du budget 2024. La décision de ne pas convoquer l'Assemblée a été prise par les vice-présidents qui gèrent l'exécutif depuis l'arrêté pris par le haut-commissaire qui entérine la démission de Jacques Lallier après sa condamnation à une peine d'inéligibilité pour favoritisme. Les tractations sont en cours entre les groupes politiques pour préparer l'élection d'un nouveau bureau à une date qui n'a pas encore été définie. Et puis, quelle vision pour le Sénat coutumier? En tout cas, quelle vision porte-t-il sur l'avenir institutionnel? Il invite le grand public à assister mardi prochain à une conférence à l'université, Michael.
Un rendez-vous fixé dans l'amphi 250 sur le campus de Nouville sur le thème « Avenir institutionnel, prorogation de l'accord de Nouméa et perspectives pour le Sénat coutumier ». L'objectif est avant tout de renouer le dialogue avec la population et tous ceux qui souhaiteront participer à travers des débats. Selon Ludovic Boula, sénateur de l'RGU et vice-président du Sénat coutumier.
Les enjeux de cette conférence, c'est d'échanger avec tout le monde, avec la société civile, les chercheurs, la population. Parce que tout le monde a leur part de vérité. Il faudra échanger et débattre. Et c'est là qu'on va commencer à renouer le dialogue. Je suis persuadé qu'il faut changer notre société, il faut la réadapter. Tout le monde a sa part de vérité et on construit ensemble. Serait-ce que pour nous donner des garanties pour l'identité kanak et donner des moyens, c'est garantie d'un avenir meilleur pour la société. Je donne juste un exemple, le 13 mai, quand ça a éclaté, l'insurrection. Quand on est descendu sur le terrain, on s'est fait insulter. Et c'est normal. On n'a pas fait le travail correctement. Mais il faut savoir que, voilà, on n'a pas les moyens. Nos travaux, nous, en tant que coutumiers, c'est plus de l'engagement personnel. Parce qu'il faut savoir qu'on nous reproche toujours de ne pas faire le travail. Mais plusieurs autres projets, on a proposé. Ça n'a pas été entendu. Les projets de loi, ça a été mis sur les tiroirs. Il faudrait un moment qu'on discute, on échange ensemble. D'où la conférence, c'est proposer notre vision et on débat. Il faut travailler ensemble.
Ludovic Boula, vice-président du Sénat coutumier. Le rendez-vous se déroulera donc à l'Université de la Nouvelle-Calédonie dans l'amphi 250 le 10 décembre à partir de 18h.
Le concours Acrovie a récompensé ce matin ses lauréats au lycée du Kukewe. Ce concours a pour but d'inciter les jeunes à concevoir des messages de prévention, Léo Fichou.
Oui, créé en 2019, le concours Acrovie continue d'intéresser les établissements scolaires et surtout les lycéens. Cette année, 15 établissements se sont portés candidats, soit près de 320 élèves au travers de 34 projets. Des messages de prévention créés par des jeunes à l'attention des jeunes sur différentes thématiques. La lutte contre les violences aux personnes, contre le harcèlement, la prévention aux addictions ou encore l'éducation à la sécurité routière. Mais Acrovie, qu'est-ce que cela veut dire? Les explications de Didier Vindatich, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Ça signifie qu'on est accro à la vie et qu'on essaie de la rendre la meilleure possible et donc de lutter contre toutes les formes de violence, toutes les formes d'addiction, enfin tout ce qui est de nature à contrarier un déroulement d'une existence normale, à la fois quand on est élève et puis quand on devient plus grand aussi après. C'est un concours qu'on aime bien, qu'on organise tous les ans, parce que c'est une façon de faire adhérer les élèves au sujet. C'est naturellement une priorité de notre politique, c'est une priorité du territoire, ça figure dans le projet éducatif territorial de promouvoir le vivre ensemble et donc naturellement de lutter contre toutes les formes de violence. C'est un combat, je dirais, local, mais universel aussi.
Et ce matin, le jury a donc récompensé les élèves du lycée d'Ikukewe de Dumbéa. Parmi les lauréats, Cheyenne et Bridget sont en classe de première et ont reçu le premier prix dans la catégorie prévention des addictions pour leur affiche contre l'addiction à l'alcool.
On a essayé d'imaginer du coup une sorcière maléfique avec un chaudron, où dans le chaudron c'est du poison. Et on a aussi fait Blanche-Neige, elle qui dit de ne pas boire le chaudron et qui déverse dans les toilettes.
Le message derrière, c'était l'alcool. Notre slogan, la potion est dans le chaudron, représente évidemment l'alcool, les effets contre l'alcoolisme, surtout à notre âge. On connaît évidemment beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui en boivent déjà et qui se lancent déjà beaucoup dedans. Et du coup, pour nous, c'était un sujet dont on voulait parler, dont on voulait communiquer, surtout pour les personnes de notre âge.
Et le lycée d'Ikukewe qui a également reçu le premier prix dans la catégorie affiche lutte contre les violences aux personnes.
Les artistes que Caroline de Groisel accompagne dans son atelier vont exposer à partir du samedi 7 décembre à la galerie Artebello. Caroline de Groisel est l'invitée de ce journal dans un petit instant, juste après la pause.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 routes de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
La Brousse s'invite à Nouméa. Radio Rythme Bleu vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour le Royal Caledonia Show.
Ah ouais.
Venez nous voir sur le stand, suivez les directs de la foire, les interviews et venez jouer avec vos animateurs préférés à la roue de la chance.
Il va y avoir quoi?
De nombreux cadeaux à gagner. Des bons d'achat carburant avec vos stations Shell Pacifique. Une nuit en bungalow premium pour deux personnes avec le Kunwe Village de Yengen. Et plein d'autres lots. Alors passez sur le stand RRB samedi et dimanche à l'hippodrome Henri Millard. RRB, toujours présent sur les grands événements.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Et nous allons parler art, puisqu'à partir de samedi et jusqu'au 19 décembre, les élèves qu'accompagne Caroline de Groisel dans son atelier vont
mes
exposer.
Mes artistes.
Oui, oui, mais j'attendais la correction, mais ça a marché tout de suite, Caroline de Groisel. Voilà, en tout cas, vos artistes, vos élèves, en tout cas les personnes que vous accompagnez dans votre atelier tout au long de l'année vont exposer à la galerie Artebello. Ils sont 8 hein, cette année pour cette exposition que vous avez baptisée Art au cœur 2. Elle fait suite évidemment à la première. Ce travail collectif, c'est une aventure aujourd'hui qui vous réjouit pleinement, hein, ça se sent.
Ah, mais c'est des partages et des émotions et des découvertes et même pour ma création personnelle, je veux dire, on part tellement à l'aventure tous ensemble, parce qu'il y a des garçons aussi. Hein. non, c'est une étape de vie très enrichissante.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce travail de peinture, c'est une espèce d'ascèse personnelle, mais qui trouve aussi son épanouissement dans le travail collectif?
Enfin, collectif.
Partagé, en tout
partagé,
cas.
Partagé, oui, c'est sûr, d'accompagnement. Et je leur apprends la liberté, en fait. Je suis tellement anti-académique
plus dans ma façon de les accompagner, que je leur apprends la liberté, je leur apprends à laisser rentrer leur fluide, quoi, leur inspiration, ne pas avoir peur et qu'il n'y ait pas d'erreur. L'erreur n'existe pas. Donc, il y a des choses très particulières. Et en plus, ce dont je suis fière, c'est que chacun a un style à lui. Ce n'est pas du De Croiselle copié, quoi. Alors, peut-être que les gens qui me connaissent voient éventuellement une palette parce que ils sont dans mon atelier, ils sont quand même au milieu de tout ça.
Ils sont environnés par votre œuvre.
Voilà, il y a une influence. Mais après, ils ont vraiment leur écriture et ils sont authentiques.
Alors, Marine Carotch, vous êtes l'une de ces, alors on ne va pas dire élèves, mais ces artistes qui travaillent avec Caroline De Croiselle, on a bien compris. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, ce travail?
Et ben, beaucoup de bien, humainement déjà. Caroline, c'est un sacré personnage, hein, qu'on aime beaucoup. C'est vrai. Et puis dans ma vie personnelle, c'est vrai qu'étant infirmière, ça permet d'évacuer pas mal de choses sur toile.
Et avoir l'objectif d'exposer, parce qu'il y a ça aussi derrière, c'est pas simplement faire un travail partagé, mais c'est aussi un travail visible pour le grand public. D'exposer, ça, c'est quelque chose de supplémentaire dans le travail que vous menez?
Oui, ça permet de montrer aussi aux autres ce qu'on est capable de faire. Dans un premier temps, c'est pas toujours accessible d'un point de vue personnel, ne serait-ce que financièrement. Donc de partager aussi tout ça avec l'équipe, de se lancer et d'oser se lancer via Caroline, c'est une super opportunité. Alors, on n'aurait pas forcément voulu se lancer tout seul, quoi.
Ouais. Et de se rencontrer aussi, parce que comme ce sont quand même des cours individuels... mes artistes ne se connaissent pas forcément tous entre eux. Bon, de temps en temps, je fais avant les
expositions, bien sûr, oui.
Une rencontre. Bon, là, on la fera après. Mais là, il va y avoir deux nouvelles que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas encore, et qui ne connaissent pas les œuvres des autres.
Alors, il y a 8 artistes qui exposent cette fois-ci. C'est les 8 artistes que vous accompagnez, ou vous faites un choix, ou vous discutez avec eux, ou elles, veulent exposer ou pas.
J'en ai d'autres, bien sûr, mais ce sont quand même des... Marine, ça fait quand même 3 ans qu'elle est quasiment depuis le début.
Oui,
elle a inauguré un peu cette aventure, qui ne s'appelait pas Art au cœur au départ, mais là, on a fait vraiment... quelque chose de différent pour différencier à la fois ma voix personnelle d'artiste peintre et ce collectif.
C'est un collectif,
cette réunion d'artistes. Oui. Voilà.
Alors cette réunion d'artistes et qui va se matérialiser dans cette exposition, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a un point commun? Parce qu'on peut imaginer qu'une exposition... Évidemment, Caroline, mais en dehors de vous, si je peux me permettre, qu'est-ce qui caractériserait... Alors, je vais poser la question à Marine, alors. Marine, est-ce qu'il y a un point commun, finalement, dans ce travail que les Calédoniens vont pouvoir voir?
Les couleurs, et puis tout ce que le travail peut nous apporter. Enfin, c'est même pas du travail, c'est le bonheur que ça peut nous apporter d'y aller, en fait, d'aller à ces ateliers, de créer, de pas faire d'erreur. Parce qu'effectivement, le côté très académique, moi, je l'ai vécu en musique, et je le regrette absolument pas. Mais c'est vrai que côté académique, dessin, cours de peinture, il faut faire un poivron. Moi, l'idée était de lâcher prise. Et lâcher prise en couleurs, moi, je suis plus sur grande toile. Je m'éclate plus sur les grandes toiles.
Donc, alors, l'expo, c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens qui viendront, qui vont peut-être être surpris. C'est une dimension un peu supplémentaire dans ce que vous avez vécu jusqu'à présent.
Oui, c'est vrai que la première rencontre était intéressante. On a pu vous rencontrer des gens qui apprécient notre travail, qui nous ont posé des questions. Pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi vous avez fait cela? Pas forcément de raison... raison pertinente dans l'idée, on fait et on voit ce qui apparaît. Après, ça apparaît pour chacun différemment, en fait. Des choses qu'on voit même à distance par le regardeur,
C'est vos vies à chacun que vous exprimez.
Vous avez parlé tout à l'heure, Caroline, de liberté que vous laissez évidemment aux artistes dans ce qu'ils font. La liberté, c'est aussi la liberté dans les formats. C'est-à-dire que dans cette exposition, il va y avoir des grandes toiles, des petites toiles. Il y a vraiment de tout,
toutes les techniques confondues, aussi bien acrylique, encre, aquarelle, fusain, tout mélangé, collage. Voilà. En fait, c'est en fonction de... Quand l'artiste rentre dans l'atelier, c'est déjà en fonction de son humeur et de ce qui s'est passé, les 2-3 mots qu'on dit. J'ai une idée de ce que je peux éventuellement lui faire faire en fonction de ce qu'il a fait, pas forcément, et c'est jamais la même chose qu'avec les autres. Et puis tout d'un coup, ou lui, il a une idée en disant tiens, ça, j'ai vu ça, allez, on y va. Mais sinon,
oui, c'est comme je me rappelle, moi, un jour, je voulais faire des hortensias. Je pense que ça fait 3 ans, je n'ai toujours pas fait mes hortensias. Parce qu'ils ne sont jamais apparus. On les verra jamais.
Donc, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, hein, pour le coup. Voilà, faut laisser un peu.
En fait, il ne faut pas y aller avec une idée préconçue. Ouais, voilà, ouais. J'essaie de ne pas y aller. Voilà, j'essaie vraiment de les rendre libres en disant allez, on y va. Et en fait, c'est un dialogue. C'est vraiment un dialogue avec la peinture. Bon, je suis là pour être médiatrice entre les deux. Mais laisser cette liberté de lancer quelque chose. Et chimiquement, la peinture répond. Et elle vous dit quelque chose. Et après, vous. Voilà. Et c'est un dialogue permanent. Et après, on dit oh là là.
Et on voit ça.
Le résultat. Et à quel moment vous sentez que, justement, une exposition est possible, que ce mûrissement peut donner lieu, finalement, à une exposition des œuvres de tous les artistes que vous accompagnez, ou en tout cas de certains d'entre eux?
Bah écoutez, moi je suis très fière de ce qu'ils font déjà. Donc là, il y en a qui ont vraiment une maturité maintenant et une authenticité. À la limite, j'ai l'impression de rien leur apporter de plus. Hein. Bon, après, ils viennent par plaisir aussi d'être à l'atelier et tout. Mais,
Et puis, pour avoir un regard extérieur quand même.
Bah, un regard, c'est plutôt un regard bienveillant. Hein, quand
oui,
même.
Bah, il est extérieur, mais c'est toujours.
Mais au moins des suggestions.
Des conseils. Et puis, à la maison, on n'a pas forcément les couleurs que Caroline a chez elle. Dans son atelier.
Des mélanges. C'est vrai.
Des choses pratiques aussi.
Des choses pratiques. Puis moi-même, dans cette aventure, j'apprends plein de choses. Je vais justement dans des tutoriels avec surtout des peintres allemands, islandais, tout ça. Je m'aperçois que c'est des choses que je faisais moi-même sans le savoir. Et puis des nouvelles choses aussi que j'ai envie de partager.
Alors Caroline de Groisel, cette aventure collective ou partagée en tout cas n'empêche pas que vous continuez à peindre.
Bien sûr.
On verra. Est-ce qu'il y a des tableaux que vous avez peints dans cette exposition?
Moi j'ai rien moi. C'est pas mon exposition.
Il y en aura vraiment... une prochainement
ou il y en a une L'année prochaine, oui, l'année prochaine. Cette année, ça a été un petit peu compliqué et puis la galerie n'a pas eu d'exposition et bon, j'en ai envoyé en métropole. Mais puis j'ai moins peint aussi parce que je me suis vraiment consacrée à vous tous. Enfin, j'ai moins peint. J'ai fait beaucoup de choses différentes, mais j'ai pas peint pour une exposition, vraiment avec un thème directé. Voilà, ça, l'année prochaine,
En attendant, Art au cœur 2, c'est donc l'exposition des artistes de votre atelier. C'est à partir de ce samedi, hein, le 7 décembre, à la galerie Artebello, que tout le monde connaît.
À partir de 9h30 le matin, c'est un café-rencontre. Hein, c'est pas un vernissage. C'est fini les vernissages le soir.
Terminé. On pourrait faire un petit café le matin pour discuter,
voilà,
partager tranquillement.
Il y a les croissants, il y aura tout, du thé.
Tout le monde est bienvenu.
Tout le monde est bienvenu, bien entendu. Et c'est joli parce que bon, ils viennent le matin, ils vont se balader après en ville, ils reviennent, c'est bien.
Voilà, et ça se poursuit cette exposition jusqu'au 19 décembre.
C'est cela.
Merci beaucoup d'être venu en parler dans le code de Radio Rythme Bleu.
Merci d'être fidèle à tout ce qu'on fait. Et ça, c'est.
On va venir voir notre expo.
Mais oui, bien sûr, exactement. Voilà, on ira regarder tout ça de près.
Merci beaucoup.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Allez, un petit mot sur notre opération au cœur de Noël. Vous le savez, une opération cette année que nous consacrons exclusivement aux cadeaux pour les enfants de 0 jusqu'à 16 ans. On compte sur votre générosité pour faire en sorte que ce Noël soit une fête pour tous. Et vous le savez, nos associations partenaires se sont engagées aussi à ce que tous ces cadeaux que vous portez à la radio soient distribués aux familles qui ont subi et qui ont été victimes des exactions. Voilà, on compte sur votre générosité une fois encore pour venir déposer tous vos jouets à la radio de 7h30 à 19h. Et puis le Téléthon 2024 n'a pas pu se tenir normalement sur le territoire cette année. La coordination de l'AFM a décidé de ne pas ouvrir son centre d'appel pour les promesses de dons au 36-37 et de limiter le nombre d'organisations. Les organisateurs ont toutefois souhaité de permettre aux Calédoniens de faire des dons pour la recherche, une décision difficile à prendre, alors que cette édition aurait dû être une grande fête, nous a dit Robert Racapé, le coordinateur de l'AFM Téléthon sur le territoire.
On a considéré, en se disant, bien, c'était difficile de solliciter les gens dans la situation actuelle. Il y a des gens et des entreprises qui ont autre chose à penser actuellement. Disons que ce ne sera pas une année blanche, parce que je suis persuadé que les gens qui ont fait des dons l'année dernière au 36-37, et avec les courriers qu'ils vont recevoir, ils vont se poser la question. Pour ceux qui peuvent, on comprend très bien la situation. Et il faut se dire, comme on le dit tout le temps, peu importe les sommes qui sont données, ça sert à la recherche.
Et on retrouvera bien le Téléthon en 2025. C'est l'objectif de continuer pour l'année prochaine.
Ah, tout à fait. Nous repartirons sur les bases l'année prochaine. C'est dommage, cette année, c'était le 30e anniversaire du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. On aurait souhaité pouvoir en faire une belle fête et remercier tous les donateurs qui, depuis une trentaine d'années, participent à la recherche et tout. Mais bon, les événements faits que nous en étions pas maîtres et nous avons pris cette décision. C'est tout à fait partie remise et toute l'équipe qui m'entoure et tout est tout à fait d'accord et ils sont prêts et on se réunira assez rapidement pour faire le point et repartir pour 2025.
Robert Racapé, le coordinateur de l'AFM Téléthon sur le territoire qui était notre invité ce matin. Toutes les informations pour les dons sont à retrouver sur le site www.téléthon.nc ou alors en appelant le 77 25 00, le 77 25 00. Il est midi 6. Dans un instant, on conclut ce journal par l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Baudin et Léo Fichou, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et dans cette page de sport, nous allons d'abord parler football avec les féminines de l'équipe de France qui disputaient leur dernier match de l'année, Léo.
Après avoir battu le Nigeria 2-1 dimanche, les Bleus affrontaient les Espagnols, championnes du monde en titre en amical. Et les tricolores sont tombées sur plus fortes qu'elles. Elles se sont inclinées 4-2. On retrouvera l'équipe de France en février et en mars prochain pour la Ligue des Nations. Ce sera contre la Norvège, l'Islande et la Suisse.
Un mot de cyclisme avec cet accident dont je vous parlais en titre qui a eu lieu ce matin il y a quelques heures. Accident de Remco Evenepoel. Le Belge double champion olympique à Paris cet été a lourdement chuté à l'entraînement après avoir heurté la portière d'une camionnette. Il souffre de plusieurs fractures à la main, à une côte et à une omoplate. Sous la violence du choc, le cadre du vélo s'est brisé en deux. Remco Evenepoel devrait revoir le calendrier de son début d'année, mais ses blessures ne devraient pas remettre en question ses principaux objectifs que sont cette année un certain nombre de grandes compétitions, dont le Tour de France. On passe à la voile avec la suite du Vendée Globe et Charlie Dalin et Sébastien Simon qui se détachent avant d'affronter a priori la tempête.
Charlie Dalin, grand favori de cette édition 2024, est toujours en tête sur Massif Prévoyance Santé. Au pointage de 9h ce matin, il devançait Sébastien Simon à bord de groupe Dubreuil de 45 000 nautiques. Les deux skippers ont pris le large sur le reste de la flotte. Ils ont plus de 320 000 d'avance, mais ils se dirigent droit vers une grosse tempête au menu, des vagues dépassant les 7 mètres et des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h.
Et puis on va terminer avec le sport en Calédonie et du basket et les finales territoriales qui démarrent ce soir.
Le rendez-vous est donné dès 18h30 à la salle Omnisport de Lance-Vata. Ce sont les dames qui ouvriront le bal. Un duel Rivière-Salée-Mondor pour succéder à la S6e kilomètre vainqueur l'an dernier. Puis à 20h, place aux hommes avec toujours Rivière-Salée qui affrontera le tenant du titre, la S d'Imbéa. Les finales se disputent au meilleur des trois matchs.
Il est midi 10, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Infomax se poursuit jusqu'à 13h avec Thierry. 13h qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité.